RCF.
Celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus dans l'évangile de Jean. Finalement, pour découvrir le Dieu des chrétiens et la foi chrétienne, on n'a rien fait de mieux que Jésus lui-même. Cette approche, c'est celle que vous proposez dans votre livre « Connaître Dieu à travers Jésus, une initiation au christianisme ». Michel Quesnel, bonjour.
Bonjour Véronique et bonjour aux auditeurs.
C'est un livre que vous publiez aux éditions Des Clés de Brouwer. Vous êtes prêtre de l'oratoire, exégète et spécialiste du Nouveau Testament. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, les auditeurs de RCF vous connaissent bien. Et dans l'introduction de ce livre, vous rappelez qu'une de vos convictions profondes, c'est, dites-vous, la foi n'est pas d'abord un catalogue de vérités à croire, mais une relation, un attachement, un rapport avec un être que nous appelons Dieu. D'après vous, pourquoi est-ce qu'on a tendance encore aujourd'hui à associer le christianisme et en particulier le catholicisme à l'idée d'un catalogue d'idées à croire?
Je pense que ça tient en partie à la liturgie parce que finalement quand on récite le credo, c'est un catalogue de vérités. Et il me semble effectivement que ça n'intègre pas suffisamment la foi à la personne. Il me semble vraiment que la foi est de l'ordre de la relation entre la personne croyante et ce Dieu que j'ose appeler le Dieu inconnu, parce que finalement on ne le connaîtra jamais totalement, il est infiniment différent de nous et plus grand que nous. Et il me semble effectivement qu'il ne faut pas utiliser le mot « j'ai la foi ». Le verbe « avoir », on l'utilise quand on a une voiture, quand on a je sais pas quoi, des choses comme ça, ou un appartement.
Comment dites-vous alors ?
Je suis croyant. C'est de l'ordre de l'être, et c'est pas de l'ordre de l'avoir. Et on disait d'ailleurs quelquefois, de façon un peu bête, avoir la foi ou perdre la foi. Non, on est croyant et éventuellement on n'est plus croyant, mais c'est de l'ordre de l'être vraiment. C'est la relation avec Dieu a quelque chose de dynamique qui est bien plus fort que le fait d'avoir quelque chose.
Alors toujours dans l'introduction du livre, vous donnez un peu les raisons qui vous ont poussé à vous lancer dans l'écriture de cet ouvrage. Est-ce que vous voulez bien nous les rappeler ou nous les donner?
Ah oui, le livre ne le dit pas, mais je peux le dire ici. C'est une commande. C'est une commande des éditions des Clés de Brouwer, venant d'Antoine Bélier, qui a travaillé à RCF. Et Antoine est venu me trouver un jour en me disant il existait un livre très bien qui présentait le christianisme à des gens qui ne le connaissaient pas. Le livre de François Varillon, « Joie de croire, joie de vivre ». Je connais ce livre, mais il a plus de 40 ans. Et il m'a dit, il faudrait faire quelque chose maintenant qui soit tout à fait d'un autre ordre. Le même objectif, présenter le christianisme à des gens qui n'y connaissent rien, mais qui sont intéressés par le christianisme, mais alors de façon assez différente, en partant des évangiles, parce que finalement, c'est dans les rencontres que Jésus peut avoir avec d'autres humains que l'on peut découvrir qui est Dieu.
Alors, il s'est tourné vers vous, pas totalement par hasard, probablement, sachant que pour vous, vous venez de nous l'expliquer, ce qui est important, ce qui est central dans le christianisme, c'est la relation avec un Dieu qui est une personne, qui n'est pas qu'une idée, ni une philosophie de vie, ou un catalogue de choses à croire.
Tout à fait.
Et puis, la relation aussi entre les croyants et puis avec le monde, tout, oui. De manière plus générale.
Et dans mon livre, d'ailleurs, j'évite systématiquement, y compris dans le titre des chapitres, le verbe « être » pour parler de Dieu. Je ne dis jamais « Dieu est », parce que finalement, Dieu est toujours au-delà de ce qu'on peut en connaître ou en concevoir. J'emploie des verbes d'action. Dieu fait ceci, Dieu fait cela, mais jamais Dieu est. Il n'y a pas d'attribut qui convienne pour Dieu. Il est au-delà de tout.
Vous êtes exégète, ça veut dire que vous étudiez, vous travaillez, vous décodez les textes, l'évangile, vous les passez à la loupe depuis des années, Michel Quesnel. Est-ce que ça veut dire aussi que ce travail a quelque chose de vain et qu'il faut tout simplement regarder comment Jésus se comporte avec les personnes qu'il rencontre?
On n'a jamais fini de travailler la Bible. Même si j'ai une longue histoire avec la Bible, chaque fois on découvre des choses nouvelles quand on approche les textes de près. J'ai l'avantage effectivement de bien connaître le grec et donc d'utiliser les termes grecs que je ne mets pas dans mon livre.
Votre livre est en français.
Il n'est pas français, absolument. Et il m'arrive de citer les termes grecs, mais j'explique automatiquement après ce qu'ils veulent dire. Il me semble effectivement que retravailler les textes, on n'a jamais fini d'interpréter la Bible. C'est la richesse de ce livre-là. Ça ne se réduit pas à des affirmations sur Dieu. C'est quelque chose qui rapporte une histoire entre Dieu et le monde créé. Et finalement, cette histoire-là, elle est toujours à écrire et à réécrire.
Alors, puisqu'on parle de rencontres, eh bien, disons que c'est le fil rouge de votre livre, Michel Quesnel. Vous avez choisi de présenter Jésus à travers les rencontres, les liens qu'il tisse, tels qu'ils nous sont relatés dans les textes d'Évangile, et à travers ça, de nous montrer un visage de Dieu, le visage de Jésus. On peut dire les choses comme ça ?
J'ai presque envie de dire les au pluriel.
Les visages de Dieu.
Oui, les visages de Dieu, parce que si on le réduit à un seul, on a l'impression de posséder quelque chose. Et alors effectivement, les différentes rencontres que Jésus peut avoir avec des personnes différentes, finalement, font scintiller la relation que Dieu entretient avec les personnes. Et donc, il y a des quantités d'aspects, et je pense qu'il est important de souligner la diversité des aspects, oui.
Alors, les premières rencontres, ce sont celles qu'il fait, en tout cas dans votre livre, avec les disciples, avec ceux qui vont devenir ses disciples. Il les appelle, il quitte tout pour le suivre. C'est un gourou, Jésus ?
Je ne pense pas.
Je ne pense pas.
Je pense effectivement que le Jésus qui appelle est celui qui nous montre aussi que Dieu appelle. C'est-à-dire que finalement, Jésus à des rencontres extrêmement fortes, mais en même temps très libres avec les personnes. Le premier texte que je commente, vous savez que dans mon livre, il y a 16 rencontres, 2 fois 8, et j'en ai pris 4 par évangile d'ailleurs. Donc la toute première que je raconte, c'est effectivement l'appel des premiers disciples dans l'évangile de Jean. Ce sont les disciples qui posent une question à Jésus. Et Jésus leur dit, il leur demande effectivement « Où demeures-tu ?» Et Jésus répond, venez et voyez et vous verrez. C'est-à-dire, il ne va pas les conduire quelque part en leur disant, c'est là, leur montrer l'ensemble et en leur disant ce qu'il faut croire. Il les invite à voir et à se faire leur propre opinion.
À vivre une expérience.
Absolument. Et dans une vraie liberté. Parce que finalement, ils vont venir voir. Si ça ne leur plaît pas, ils pourront partir. Il n'y a absolument rien d'obligatoire dans le fait de se mettre à la suite de Jésus. Et je pense que cette liberté-là est fondamentale. D'ailleurs, le titre du chapitre dans lequel je parle de cet épisode, c'est « Dieu nous appelle à la liberté ».
La liberté.
Et je crois vraiment à cette liberté-là. On a quelquefois l'impression qu'un Dieu tout-puissant nous rendrait esclaves d'une façon ou d'une autre. Nous ne sommes pas esclaves, et Dieu n'est pas tout-puissant au sens où nous entendons, nous, la toute-puissance.
Rien n'est écrit.
Absolument.
De nos destins, de nos vies, de nos parcours. C'est nous qui les inventons, enfin, qui en faisons ce qu'on peut, ce qu'on veut.
Dieu nous fait confiance. Dieu nous fait confiance. Nous sommes des créatures libres. Et finalement, il fait appel à cette confiance-là, qui est fondée par une expérience, justement, de rencontre et de communion. Je peux mettre un mot un peu fort, mais je pense quelque chose de cet ordre-là, oui.
Alors, il leur confie une mission à ses disciples.
Oui.
Ils ne sont pas juste invités à être spectateurs ou à avoir un personnage sympathique et éventuellement un lieu sympathique. L'expérience dont on parle, là, c'est l'expérience de toute une vie, non seulement qui va changer la leur, mais celle de l'histoire de l'humanité.
Ah ben, il les envoie aussi. Il les envoie, il les appelle apôtres. Apôtre, le mot grec apostolos, ça veut dire envoyer. Et de préférence, envoyer au loin. Jésus, bon, c'est beaucoup déplacé, il n'a pas pu aller partout. Et donc finalement, dans toute la terre juive, et même quelquefois un peu en dehors de la terre juive, Jésus a fait connaître son message par justement la prédication et l'engagement des gens qu'il a recrutés, si j'ose dire, comme disciples, mais un recrutement qui n'a rien de contraignant. Hein. Et alors il les envoie, ce qui est ça qui est très intéressant, il les envoie dans un total désintéressement. Il faut qu'ils aient le minimum d'équipement. Il faut que le message soit incarné dans leur personne. C'est pas en ayant des quantités de ressources à sa disposition que l'on est vraiment témoin de l'évangile. Ils les envoient avec un minimum de vêtements. Ils les envoient en leur demandant d'accepter l'hospitalité des gens chez qui ils arrivent. Parce que non seulement, quand on communique quelque chose, la communication ne se fait pas à sens unique.
Est-ce qu'ils ont obligation de résultat?
Les obligation de
résultat?
Ah, pas du tout.
Quand ils les envoient en mission?
Ben, écoutez, vous savez, ces résultats, lui, n'ont pas été terribles non plus. Donc, il est charge d'une mission, mais il n'y a pas d'obligation d'aucune sorte. Et si ça ne réussit pas, ça ne réussit pas. D'ailleurs, il leur dit, si jamais vous n'êtes pas accueillis, repartez de là. Et même, alors le geste est un peu symbolique, en secouant la poussière de vos pieds, c'est-à-dire toute votre merde, excusez-moi l'expression, on vous la laisse, ce qu'on vous dit ne vous intéresse pas, donc eh ben, restez de votre côté, et puis c'est tout. Et vous verrez si plus tard, le message que nous vous proposons, si ce message vous intéresse. Mais il n'y a pas de contrainte non plus.
Il n'y a qu'une proposition.
Absolument.
On vous retrouve demain pour poursuivre. Merci Michel Canet.
Volontiers. Canet.